dans cette release de CPU. De la parano, de l'humour, des métadonnées et de l'internet sans fil. L'équipe aujourd'hui est composée de Simon, Infested, Grunt et Dascritch. Nous vous diffusons un remontage de la crypto partie du 28 octobre 2017. Et j'espère que tout le monde, public inclus, a mis son portable sur silencieux. Oui, et en mode anonyme aussi, ce serait cool. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous vous passons une deuxième partie de la crypto-partie qui eut lieu le samedi 28 octobre 2017 à la médiathèque José Cabanis. Nous remercions infiniment tous les bénévoles de Crypto-partie Toulouse et les équipes de la bibliothèque municipale de Toulouse. Le lien vers l'enregistrement complet et non remonté de la crypto-partie est disponible sur la page de l'émission sur notre site cpu.pm.
On va repartir sur quelque chose de moins pratique, de plus théorique. Qu'est-ce qu'une métadonnée ? Parce que souvent, on entend nos politiques nous dire que finalement, vous inquiétez pas, on regarde pas le contenu de vos mails, on regardera que les métadonnées. Parce que les métadonnées, pour eux, c'est rien. Du coup, on va voir à travers différents exemples, qu'est-ce qu'une métadonnée ? Dans le cas d'un appel téléphonique, finalement, les métadonnées, ce qu'on appelle les métadonnées, c'est le numéro de l'appelant, le numéro de l'appelé, la durée de l'appel et la position géographique. Mine de rien, on n'a pas le contenu, mais ça peut donner quand même pas mal d'informations. Dans le cas d'un email, on a le compte mail de l'envoyant, donc votre adresse mail, les destinataires à qui vous avez décidé d'écrire, la date et l'heure de l'envoi du mail, le titre de l'email. Là encore, c'est assez précis en fait. Enfin, on sait avec qui vous parlez. On sait à quelle heure vous échangez. Et on a une idée du sujet. Même si le sujet n'a rien à voir, rien que les personnes avec qui vous parlez, c'est déjà suffisamment. Enfin, c'est déjà une information en soi. Le serveur utilisé. Bon, là, on pourrait croire qu'en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le logiciel de composition utilisé. Là, on sait si vous utilisez Gmail, le webmail de Gmail. L'application Gmail sur votre téléphone. Si vous utilisez l'application mail de votre téléphone, là on sait que déjà vous n'étiez peut-être pas forcément chez vous. Vu l'heure, c'est peut-être bizarre d'avoir utilisé votre application sur votre téléphone alors que vous aviez un PC à votre disposition. On n'est que dans la supposition, mais ça donne déjà énormément d'informations sur vous. C'est que de la métadonnée, mais c'est quand même de la donnée. Dans le cas de la consultation d'une page web, lorsque vous essayez d'accéder à un site comme Wikipédia, finalement, on a votre adresse IP. C'est une adresse unique qui sert à vous identifier vous. On a l'adresse IP du serveur demandé. Pour le coup, ça sera l'adresse IP du serveur sur lequel est hébergé Wikipédia. On aura le nom de domaine demandé. Oui, parce que en fait, la machine qui héberge Wikipédia, elle peut héberger d'autres sites. Là, on saura précisément quel site vous consultez. Le document demandé, pour le coup, ça pourrait être l'article Wikipédia sur le djihadisme. Effectivement, vous avez le droit de vous intéresser au djihadisme, vous avez le droit d'aller voir la page Wikipédia qui en parle. Ça ne fera pas de vous un terroriste. Votre navigateur, savoir que vous utilisez Google Chrome, savoir encore une fois que vous utilisez Google Chrome version mobile ou Firefox parce que vous faites attention à votre vie privée. Votre système d'exploitation. Si vous utilisez Windows, vous pouvez passer pour quelqu'un de non averti, quelqu'un de. Par contre, si comme le monsieur là-bas, vous utilisez Ubuntu, là tout de suite, on sait que peut-être que vous êtes un petit peu plus averti. Votre langue et les cookies posés par le serveur. Encore une fois, faut garder en tête que quand les médias ils vous disent que votre fournisseur d'accès Internet, il va donner que les métadonnées, que vos métadonnées. Il va analyser que ces données-là, finalement, ça en donne déjà pas mal. Enfin, on sait déjà ce que vous regardez, à quelle heure vous le regardez. On sait avec qui vous écrivez. On sait où est-ce que vous êtes, finalement. C'est pas n'importe quoi comme données. Ça reste des données importantes. Et en fait, des métadonnées, on en trouve même dans les photos. Effectivement, si je m'amuse là tout de suite à prendre une photo, il y aura le nom du fichier, les dimensions de l'image. le modèle de l'appareil que j'aurais utilisé, le réglage de sensibilité de la luminosité, ce qu'on appelle ISO, quand on s'y connaît en photo, tout ça. Le numéro de série de l'appareil photo, la date, l'heure de prise de photo, la position, l'altitude, l'orientation géographique. Toutes ces photos qu'on publie sur Twitter, sur Facebook, tout ça, là encore, bah en fait, on livre un certain nombre d'informations qu'on considère souvent comme pas importantes. Et finalement, bah, la position et l'heure, avec ça, on peut potentiellement déduire qui vous avez pu croiser, à qui vous avez pu parler. On peut déduire beaucoup de choses, en fait. On peut déduire votre chemin, votre parcours. On peut déduire... Encore une fois, voilà, c'est pas de l'information totalement simple. Ça a de la valeur et c'est important de d'en avoir conscience. J'espère avoir mieux illustré ce que c'est qu'une métadonnée. Vous avoir sensibilisé un peu plus à l'importance de ces métadonnées. Que vous ayez conscience que c'est des données, finalement, un peu comme les autres. Elles ont pas de statut particulier. Enfin... Je ne vois pas pourquoi on les livrerait, on livrerait plus nos métadonnées, plus que nos données, parce que finalement, le contexte est tout aussi important que la donnée elle-même. Si vous avez des questions, monsieur. Alors, la question, c'est vous le subissez. Oui, on le subit. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose ? On peut, déjà, c'est bien d'en avoir conscience qu'on le subit. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour éviter que nos politiques cherchent à connaître, on appelle, ouais, on sensibilise nos députés, on reste vigilant à ce qui se passe, à nos lois qui passent, aussi bien nationales qu'européennes que mondiales. Vous aviez une question. Alors, la question c'était, est-ce que toutes les photos, tous les fichiers qui passent, qui sont sur nos ordinateurs, est-ce qu'ils transitent par les GAFAM? Est-ce qu'ils sont conservés? Alors, qu'est-ce que les GAFAM? C'est vrai. Alors, les GAFAM, en fait, c'est les grosses sociétés Google, Amazon, Microsoft, Facebook, Apple. Donc, c'est des grosses sociétés qui effectivement, collectent beaucoup de données, tels des silos de données. Ils collectent toutes les données et les stockent. Est-ce que toutes nos données, elles transitent forcément par eux? Non, parce que vous n'êtes pas obligé de stocker vos photos sur Google Drive, de les publier sur Facebook, Quand je stocke un fichier sur mon ordinateur, il appartient qu'à mon ordinateur et si je ne le synchronise pas avec mon Google Drive, Google n'y aura pas accès. Maintenant, effectivement, si je commence à la publier sur Facebook, cette donnée elle sera partagée avec le monde entier. En fait, tout dépend de ce qu'on fait de nos données. Tout dépend de si on décide de les partager ou pas sur Internet. C'est une question qu'il faut bêtement se poser. Pour chaque fichier, il y a une réponse différente à apporter. Est-ce que j'ai vraiment envie de publier une photo de mes vacances sur Internet? C'est à moi de voir. Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Est-ce que je le regrette pas? Est-ce que je le regretterai pas? Est-ce que j'ai pas intérêt à regarder du côté de ces métadonnées et peut-être à essayer d'en effacer certaines? Il y a des métadonnées qui s'effacent. Typiquement, la géolocalisation d'une photo. Par exemple, je peux juger que ça a pas vraiment d'importance que ça reste dans cette photo, surtout avant de la publier. Je me dis que Facebook n'a pas forcément besoin de savoir que je l'ai prise à 14h23, ni le jour précis. Enfin, si je décide de la publier, je peux décider de la publier ce jour-là et que Facebook n'en sache rien. Il y a des petits outils, j'en parlerai tout à l'heure pour justement essayer de faire le ménage dans ces métadonnées au niveau des photos. Par contre, au niveau de l'email, par exemple, je ne vais rien avoir. Enfin, pour le coup, l'email, il est standardisé. Dans tous les cas, il y a l'adresse mail de l'expéditeur. Dans tous les cas, il y a l'adresse mail des destinataires. Dans tous les cas, il y a la date et l'heure de l'envoi. Dans tous les cas, il y a un sujet. Alors, ce sujet, je peux ne rien mettre dedans, mais ça n'aura pas beaucoup d'effet. Enfin, finalement, l'information importante qu'on peut tirer des métadonnées d'un email, c'est bêtement qui communique avec qui et à quelle heure. Bon, ça, on pourra rien faire pour éviter ça. Il y a deux questions. Oui. Est-ce qu'il y a un cadre limitant pour l'État pour récupérer ces métadonnées? Non. Non. L'État considère que, l'État considère que la justice a libre droit d'accès aux métadonnées et que, au contraire, il doit regarder ce qui. Enfin, globalement, la justice aura toujours le droit d'accéder à vos métadonnées. Une autre question. Alors, la question, c'est PGP. PGP, en fait, pour ceux qui n'ont pas entendu parler, c'est un système de chiffrement de communication. Et du coup, est-ce que PGP camoufle ces informations, ces métadonnées ? Eh bien, fait, malheureusement, non. C'est bien ça le souci. Avec PGP, on va pouvoir camoufler la donnée, chiffrer la donnée. Donc, le cœur du message, maintenant... toutes les informations autour, elles ne seront pas chiffrées. On revient encore une fois sur l'exemple de finalement de la carte postale et de l'enveloppe. Oui, une autre. Est-ce qu'il n'existe pas un médiateur numérique ? La CNIL, c'est le rôle de la CNIL de jouer ce rôle, de jouer ce rôle de médiateur numérique. Maintenant, elle a peut-être un petit peu plus du mal à s'imposer ces dernières années. Il ne faut pas hésiter à essayer de la solliciter et essayer de lui rappeler ses devoirs.
En clair, si ça dépend vis-à-vis de qui vous voulez justement effacer ces informations vis-à-vis de vous. Pour le niveau français, effectivement, c'est la CNIL. Je parlais tout à l'heure du RGPD, donc le 28 mai prochain. Cela va s'appliquer au niveau européen et tout le monde aura les mêmes règles. Et si c'est une entreprise qui est en Irlande ou si c'est une entreprise qui est en Allemagne, la CNIL sera compétente pour faire remonter. Par contre, ce qu'il faut reconnaître, c'est que malheureusement, la CNIL, depuis 2003, il y a une attaque vis-à-vis de son rôle, puisqu'elle a été créée en 1978 à cause d'un fichier de police qui a été très mal nommé. On l'a appelé Safari. Super, c'est la chasse aux Français. Hein. Et le rôle originel de la CNIL était justement de réguler le fichage organisé par l'État et les croisements de fichiers. Le principal problème, c'est que depuis 2003, on est entré dans une ère de paranoïa totale. Et on considère que la CNIL a maintenant juste un droit de regard, de dire « Oh, il faudrait pas trop », etc. Et on passe de plus en plus, en plus, en plus de lois sécuritaires. On a une inflation du nombre de fichiers de police qui est absolument effarant. Pratiquement, on parle de plus de 80, dont 40 sont illégaux. Hein. Mais on les régule après coup. Oh, il y a un attentat. Ah bah ça tombe bien. Hop, on a une loi qui est prête. On va s'attaquer au terrorisme. On va réguler les fichiers qui n'auront pas permis d'empêcher ces attentats. Donc c'est un gros, gros, gros problème. Le seul moyen de réguler ça, c'est d'appeler son député, appeler son sénateur et de lui dire... La loi d'état d'urgence n'a servi à rien. Essayer de rajouter justement plus de surveillance globale, ça ne sert à rien. Il y a des associations qui proposent des outils très bien de ce côté-là. Il y a notamment la Quadrature du Net, la Ligue des droits de l'homme, il y a la FFDL, l'April, il y a toutes ces associations qui sont là, qui proposent même des campagnes de phoning quand il y a une loi qui est en cours de débat. Donc c'était le cas justement le mois dernier. Il n'y a pas eu suffisamment de coups de fil pour arriver à convaincre. Mais je peux vous assurer une chose, c'est que passer un coup de fil à un homme politique sur un sujet, même si c'est que son assistant qui décroche et qui prend l'appel, eh ben ça a un certain poids. Parce que quand vous avez 20 coups de fil dans l'heure, tout d'un coup c'est « Ah, mince, ça va se voir ». Et c'est ça qui est important. Alors quand on disait effectivement les hommes politiques ne sont pas surveillés, etc., c'est non, non. Ils les ont ces informations, ils se les gardent au chaud. Le problème, voilà, c'est qu'il faut quand même un minimum d'égalité. Et eux, ben, ils ont droit à une protection que nous, on n'a pas le droit. Ben, le meilleur moyen, c'est de leur appeler, leur dire « ça n'est pas normal ». C'est la seule chose que je peux vraiment vous conseiller dans l'immédiat. Par contre, après, il faut identifier les menaces et il faut identifier effectivement quel est le problème. Mais on va voir tout à l'heure que les métadonnées ont une utilité et que, oui, des fois, on est obligé de les laisser fuiter parce qu'elles sont utiles.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, la question, c'est combien de temps sont conservées ces métadonnées pour le web ou les appels téléphoniques ?
Donc, à l'origine, la loi de conservation des données, c'est 2 ans en France. C'est en train d'être réduit à 1 an. Et la loi européenne, donc qui s'applique à tous les pays européens, dit 15 jours, notamment pour les IP, les consultations de log IP, c'est 15 jours. Donc on essaye de, enfin il y a des associations qui essayent de faire valoir le droit européen par rapport au droit français, mais c'est une question encore complexe. Ouais.
Wax Taylors, Magic Numbers dans une version instrumentale, extrait de l'album Dusty Rainbow from the Dark, sorti en 2012. Vous écoutez Radio FMR. CCPU, l'émission carré, petit et utile, et nous vous diffusons des extraits de la crypto-partie du samedi 28 octobre 2017.
Je vais vous expliquer ce que c'est qu'Internet. Internet, c'est un mot valise. C'est un mot valise en anglais qui veut dire Interconnected Network. Ça veut dire des réseaux qui sont reliés entre eux. Et donc, ce sont des réseaux informatiques qui se sont mis d'accord au bout d'un moment pour se connecter entre eux, pour pouvoir chercher l'information de plus en plus loin par rapport à d'autres réseaux. C'est un peu comme les réseaux téléphoniques. Regardez, maintenant, vous pouvez passer un coup de fil d'un portable en France vers l'étranger. Et c'est exactement ça. Ce sont des réseaux téléphoniques qui se sont connectés, mais c'est un petit peu plus complexe derrière. Mais après tout, qu'est-ce que c'est qu'un réseau informatique ? Ben, un réseau informatique, ce sont des ordinateurs que l'on a reliés entre eux et qui discutent entre eux avec un système sur lequel ils se sont mis d'accord. Et ça, ça s'appelle un protocole. Alors qu'est-ce qu'un protocole en soi ? Ben, c'est relativement simple, ça veut dire ben, on a les mêmes pratiques pour pouvoir discuter entre nous. Comment on ferait pour échanger des données ? Ben, en soi, on a des données et on a des métadonnées. Donc, quand je veux écrire vers un autre ordinateur sur le même réseau, il faut tout simplement que les ordinateurs qui vont passer l'information entre eux sachent qui a émis l'information, vers qui on l'envoie, et aussi pour quel usage on fait, si c'est un email ou si c'est du web. En soi, c'est relativement simple. Disons que ce soir, on se fait une petite fiesta, il y aura peut-être de l'alcool, quelque chose comme ça. Et je décide de prévenir mon ami, Simon, donc je lui envoie une information, je vais lui dire « qu'est-ce que tu fais ce soir ?» Et on a une convention. On va dire que la personne qui est là porte le numéro 0 et qu'on va se numéroter de l'un à l'autre. Donc, eh ben, y a quelqu'un qui est le numéro 1, quelqu'une qui est le numéro 2, quelqu'un qui est le numéro 3. Donc en fait, moi, donc, je suis le 0 et je l'envoie à 3. Non, c'est pas le score de la dernière finale que la France a gagnée. Et en fait, c'est ça. C'est une simple carte postale. C'est-à-dire que là, je vais le transmettre à l'ordinateur qui fait partie du même réseau que moi, qui est le plus proche, qui va regarder l'information pour la passer à la route qui est la plus logique pour aller vers le destinataire pour pouvoir l'envoyer. Et en soi, un réseau informatique, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que là, ce que j'ai envoyé, c'est ce qu'on appelle un paquet. Et on se les envoie entre eux, par petits bouts, en disant « cela va de telle personne à telle personne ». Et en soi, c'est exactement une carte postale. Aussi simple que cela. Bon, alors par contre, ça a un inconvénient. C'est que là, en passant cette information-là, évidemment, tous les ordinateurs sur le réseau qui vont voir passer mon paquet vont avoir toutes les informations. C'est un peu comme quand vous envoyez une carte postale. Le facteur peut très bien lire le courrier. À son corps défendant, bien sûr. Hein, c'était pour lire l'adresse. Et pour cela, on a une petite astuce. Et l'astuce, c'est le chiffrement. Le chiffrement, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'on va garder les métadonnées dont on a besoin pour pouvoir discuter entre nous. Mais je vais rajouter, en fait, entre le système qui permet de communiquer entre nous et le logiciel qui me permet de lui écrire un email, une petite fonction qui permet de chiffrer l'information, de l'enfermer, en fait, dans une enveloppe que seul Simon pourra ouvrir. Et à partir de là, voilà, j'ai une information qui est chiffrée, les métadonnées dont a besoin le réseau pour fonctionner reste en clair, et je peux le passer d'une personne à l'autre. Je ferme mon enveloppe, et là on assure une chose, on assure la confidentialité de l'information. C'est extrêmement pratique, parce que du coup, il ne veut peut-être pas que tout le monde sache que oui, il est ouvert pour faire une soirée ce soir, et tout le reste, et que oui, il y aura de la vodka et de l'alcool à volonté. Et en soit, Internet, le problème est exactement là. C'est-à-dire que si on ne chiffre pas les données, jamais cela vous viendrait à l'idée d'aller consulter un compte en banque, d'aller faire de l'achat en ligne, il y a besoin d'avoir ce chiffrement, en fait, entre votre ordinateur et l'ordinateur avec qui vous voulez communiquer. Pourquoi ? Parce que donc Internet est une liaison entre plusieurs réseaux informatiques qui ont des accords commerciaux entre eux, mais on ne sait pas par qui ils sont administrés. On ne sait pas comment fonctionnent les ordinateurs qui sont derrière et s'ils ne vont pas stocker toutes les informations qui vont passer par eux. Et en soit, c'est pour ça qu'il est extrêmement important d'arriver à chiffrer ces communications quand on veut un certain niveau de confidentialité. J'ai été clair ? Mais je suis sûr que vous avez des questions. Alors je vous en prie. Donc les questions en fait sur la structure de l'Internet, allez-y, c'est maintenant. C'est un réseau électrique. Alors, en fait, si on veut, mais c'est plus compliqué que cela, moi je le compare vraiment à un réseau téléphonique dans le sens où, en fait, on dirige la communication d'un côté à l'autre pour pouvoir se l'envoyer. Par contre, le système de paquets, il permet aussi quelque chose qui est extrêmement important, c'est qu'il permet de ne pas monopoliser la ligne pour une seule communication avec un autre ordinateur. On peut dialoguer avec plusieurs ordinateurs sans avoir à se déconnecter et se reconnecter à chaque fois. On a encore eu un exemple absolument affligeant cette semaine de quelqu'un qui spécialise la sécurité informatique en France et qui a dit « Ah non, mais le réseau Minitel était tellement mieux, il était plus sécurisé. » Ah, tu as peut-être oublié, Coco, qu'on ne pouvait communiquer qu'avec un seul ordinateur à la fois. Ça veut dire que je ne peux pas écouter une radio, moi, et disons, je vais faire la pub France Inter, hein, au hasard, en même temps que je vais consulter Le Monde, pendant que j'écris un email à mon employeur pour lui dire que je suis malade comme un chien et que j'arrive même pas à me traîner hors de mon lit, pendant que je suis en train de consulter, oh mince, je l'ai dit, les billets de train pour aller chez ma tata du Quercy. Peut-être vous avez d'autres questions, je vous en prie. Oui, monsieur ? Alors, est-ce que l'Internet a été créé par l'armée américaine ? C'est faux et c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des travaux qui ont été faits par l'armée américaine et qui sont restés théoriques. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y avait des universités américaines à ce moment-là qui, elles, avaient besoin de s'interconnecter entre elles. Et à l'époque, tirer des lignes, ils avaient des opérateurs privés, ils n'avaient pas une grande infrastructure comme nous, on a hérité de France Télécom, qui leur coûtait une fortune. Donc, tirer un câble vers chacune des universités avec qui on voudrait dialoguer, ça aurait coûté une fortune. Donc ils sont partis par ce système de maillage, justement, pour faire des économies. L'armée américaine, alors ça c'est le grand mythe, comme quoi Internet a été fait pour résister à une attaque nucléaire, etc. Non, c'est pas pour ça. C'était qu'eux aussi voyaient une grande utilité, tout simplement, d'avoir ce système de maillage. C'était économique. Voilà. Mais après, il y avait différents réseaux qui étaient, en fait, qui étaient très disparates entre eux, hein, au départ. Maintenant, là, je branche mon ordinateur sur le réseau Wi-Fi qui est fourni gratuitement par la médiathèque. Aussi bien que je le branche chez moi, ben, il faut se dire que dans ces réseaux-là, à l'époque, c'était même pas possible. C'était extrêmement compliqué. Chaque réseau était plus ou moins propriétaire. Et maintenant, grâce à Internet, justement, ça s'est unifié et ça a simplifié énormément les communications entre ordinateurs. Et la preuve, c'est que maintenant, on a des téléphones portables, on est connecté à son opérateur, puis on rentre chez soi, on est connecté à son réseau. C'est devenu transparent. Le satellite. On utilise peu le satellite. On l'utilise relativement peu parce que tout simplement, le satellite, il faut compter avec le retard. Ça prend une seconde. Donc, on s'en sert relativement peu. C'est vrai qu'à une époque, on servait du satellite pour les transmissions téléphoniques entre les continents, mais c'était économiquement plus intéressant de passer par les câbles souterrains, par les câbles marins et les câbles qui traversent les pays. Par contre, il existe dans des pays soit qui n'ont pas d'infrastructure, genre vous êtes au milieu du Sahara, soit vous êtes en pleine mer, soit vous êtes aussi plus simplement dans un pays qui vient d'être dévasté par un ouragan. Il y a des moyens de communication, ils ont des mallettes satellites pour déployer un réseau Wi-Fi au niveau local, pour pouvoir récupérer de la connectivité le plus vite possible, en attendant de pouvoir retirer les câbles, refaire tous les réseaux. D'ailleurs, justement, j'ai oublié le nom d'ailleurs de cette initiative qui est dans les Caraïbes, Caribbean Wave, je crois, où en fait ils sont mis justement en place lors du passage des derniers ouragans. Ils font régulièrement des exercices pour cela. En fait, le réseau satellitaire est extrêmement cher, mais il a un autre inconvénient, c'est que tout le monde est à l'écoute. C'est très facile de capter une communication, tandis que c'est beaucoup plus compliqué de capter une communication quand on est sur un réseau filaire. Oui, c'est de la radio, donc on peut capter comme on veut à n'importe quelle distance. Là, on parle de déployer du satellite dans les zones à très faible couverture en France. Le problème, c'est qu'on n'aura jamais le débit. C'est extrêmement compliqué parce qu'il y a du retard, donc ça ralentit les pages, etc. Et ensuite, ça pose aussi un problème de confidentialité. Il faut savoir que les solutions de satellites par Internet, jusqu'à très récemment, tout était en clair. Donc il suffisait de pointer son antenne satellite pour capter les communications de son voisin. C'était franchement pas propre. Mais là-dessus, justement, j'ose pas le dire, mais Benoît, en fait, est journaliste spécialisé dans les télécoms, donc il suit de très près, justement, là-dessus, sur le satellite. Il pourrait mieux en parler que moi. En clair, on peut dire que c'est un pis-aller, quoi.
Bah, le problème qu'il y a avec le satellite, c'est que vous avez en fait l'effet retard, une latence du fait que l'information doit aller au sol, doit atteindre le satellite et doit revenir. C'est une seconde pour monter, une seconde pour descendre. Là où on a le système de ping, on parle en millisecondes. Donc lorsque vous demandez votre page, vous attendez 3 secondes en moyenne pour avoir les premières informations. Ensuite, pour ce qui s'agit des cas exceptionnels, en l'occurrence dans les Antilles, il y a des associations comme Télécom Sans Frontières ou d'autres qui ont dû intervenir. Pourquoi ? Parce que les réseaux câbles, tous les réseaux mobiles et autres ont été dévastés, ont été détruits. Les opérateurs, que ce soit les opérateurs Dolphin Telecom ou Orange ou Digicel, qui sont les opérateurs locaux de Saint-Marin et de Saint-Barthélemy, eux, c'est simple, ils n'avaient plus rien. Même le bâtiment administratif où il y avait éventuellement l'infrastructure principale rasée. Donc du coup, il fallait tout repartir dès le début, mais le problème qu'il y a, c'est que ces bâtiments sont rasés, on n'a pas accès aux couloirs, on n'a pas accès aux fibres qui passaient à ce moment-là. Donc le seul moyen, c'est de regarder en l'air et finalement de passer par le satellite. Mais ça reste très cher et surtout, ils peuvent atteindre les satellites, on peut prendre un ou deux satellites, donc du coup, au niveau débit, on n'est même pas... La plupart des offres, ils sont à 20 mégas, pas plus, 20, 22 mégas. Donc imaginez toute une population comme Toulouse qui demande en même temps d'accéder à Internet sur une pauvre ligne 20 mégas. C'est assez important. Du coup, ils ont fait des contrats avec des opérateurs satellites, mais ce sont des opérateurs privés. Et en plus, on est sur l'Amérique, donc du coup, on est sur des réseaux, enfin des opérateurs américains. Et c'est hyper cher, c'est hyper... Et en même temps... La station qui est en bas, ça peut être une station de la NSA comme de la CIA, donc du coup... Ou à côté, donc du coup, on n'est pas sûr des données qui passent, si les données ne sont pas regardées par ces institutions-là. Mais il faut vraiment voir que les réseaux Internet, il faut faire confiance sur ce qu'on a derrière. C'est vraiment des choses comme ça. Et moi, je sais que pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, j'ai suivi avec des acteurs locaux pour savoir comment ça se passait, s'ils ouvraient, comment ils réparaient, parce que vraiment, eux... C'était rasé, c'était vraiment rasé. Mais plus proche de nous, on a eu un cas dans les Pyrénées, c'est quand il y a eu une grande inondation du côté de Luchon. C'était marrant parce qu'Orange venait d'ouvrir, pas très loin de la rivière, un nouveau central téléphonique. J'ai encore une photo, moi, qui restait sur mon ordinateur, où je vois le bâtiment qui est éventré, où on voit deux, trois boîtiers qui restent encore en l'air. Et je me dis que là, dans ces cas-là, ils ont dû faire appel à du satellite, mais même en France, ils ont dû faire appel à du satellite. Mais c'est vrai que bon, est-ce qu'on préfère être à côté de la CIA ou à côté de la DGSI ? Chacun fait son choix.
Par contre, ce qui est extrêmement intéressant, moi j'ai énormément bossé en fait avec des organes de presse en Afrique. Et il y a un petit pays qui est assez survolté, on l'appelait la Haute Volta, maintenant ça s'appelle Burkina Faso. Les journaux qui sont là-bas ont énormément quand même de mérite pour travailler, l'économiste du Faso ou le Burkinabé. Et en fait, moi je recevais les journaux en question pour les redistribuer à des entreprises, et ils avaient régulièrement des coupures. Et pas uniquement à cause des coups d'État, c'est parce que c'est un pays qui est au milieu de l'Afrique et qui n'a pas accès à des côtes. Donc ça veut dire que l'interconnectivité entre les États, en général, ça passe par les câbles sous-marins, et que la connexion, elle passe aussi en fonction du bon vouloir des pays. Et ils avaient une liaison, allez, si je vous dis 1 giga, c'est 5 fois plus qu'une connexion fibre que l'on peut avoir. C'est magnifique. Oui, mais à l'échelle d'un pays. Au Cameroun, actuellement, depuis les dernières élections, une région complète est coupée d'Internet parce qu'ils sont anglophones. Ils font partie de la minorité, puisque le Cameroun est un État composite. Il y a une partie francophone à 70%, une partie anglophone. Ils ont été coupés. Toute l'activité économique des gens qui ont commencé à se mettre sur Internet pour différentes raisons, ceux qui font de la compta et tout ça, est bloquée. Et le seul moyen qu'ils ont trouvé pour faire ça, c'est qu'ils ont construit un petit réseau Wi-Fi pour aller jusqu'au pays le plus proche pour récupérer un début de connectivité. C'est extrêmement problématique, effectivement, quand on a un accès qui est relativement simple. Et là, pour le coup, ben, y a des opérateurs associatifs qui se montent. On en a un à Toulouse, d'ailleurs, qui s'appelle Theta Neutral, qui faisait de la connectivité par Wi-Fi. Parce que dans notre département, il y a des endroits où France Télécom ne proposait pas la DSL il y a 2 ans, 3 ans, grand max. Oui, madame, je vous en prie. Alors, est-ce que les données qui transitent par le Wi-Fi sont plus facilement interceptables que celles par le filaire ? Oui, parce que c'est de la radio. Et surtout, là où c'est extrêmement important, c'est que si la personne est connectée au même réseau Wi-Fi que vous, il voit les données que vous n'avez pas chiffrées. Pour vous connecter à un Wi-Fi, il vous faut un mot de passe. Ce mot de passe, on s'en sert pour chiffrer un petit peu les communications. Mais le problème, c'est que si la personne est sur le même réseau que vous et est identifiée, elle voit les communications que vous faites. Donc oui, le Wi-Fi, le problème, c'est qu'on peut capter le Wi-Fi de son voisin et on peut savoir ce dont il passe. Si vous avez des choses confidentielles, il vaut mieux passer par le câble pour cela. C'est plutôt conseillé. Oui, c'est celle d'après, je m'excuse. Oui, monsieur. La 4G passe-t-elle par satellite ? En fait, ça dépend, mais en général, non, parce que ça fait trop de retard. Si ça passait par la satellite, ça veut dire que les communications téléphoniques que vous ferez... Voilà. Ah, j'ai un coup de fil. Allô ? Allô ? Voilà, donc non. C'est aussi simple que ça.
Alors, pour s'il s'agit du réseau 4G, la plupart des opérateurs, si tu remarques bien, là où il y a la diffusion 4G, c'est là où ils ont déjà de la fibre. Donc, en fait, tout l'arrière des réseaux 4G, ben, ce sont des réseaux fibre optique. Donc, du coup, un, tu n'as pas le passage de 3 secondes par le réseau satellitaire. Et deux, ben, tu sais, tu les as en haut de la médiathèque, tu en as des antennes un peu partout, mais ça a plus besoin de fibre. Pourquoi ? Pour avoir une connexion qui aille jusqu'à 1 gigabit, comme ce qui est promis. Alors, si tu veux l'avoir, c'est pas les 20 mégas du satellite face aux gigas de la fibre. Si tu veux, le truc qui est l'élément de sécurisation, c'est la méthode 4G, Wi-Fi ou autre. C'est elle qui va te faire la première partie de la sécurité. Après, pour ce qui s'agit de la fibre derrière, il faut que tu fasses confiance à ton opérateur qui va faire le transit. Thank you.
Mississippi Delta Broadcast par le groupe Missing Person. Et vous écoutez Radio FMR. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous vous diffusons des extraits de la Crypto Party du samedi 28 octobre 2017.
Je vais justement vous parler de la sécurisation du Wi-Fi, mais on va quand même rappeler ce que c'est que le Wi-Fi en anglais. Le Wi-Fi, Wireless Fidelity. En fait, le Wi-Fi, c'est déjà c'est une marque qui appartient à la Wi-Fi Alliance. La Wi-Fi Alliance, c'est en fait une association, un consortium de tous les entreprises, opérateurs et autres qui justement travaillent sur ce domaine-là. C'est eux qui définissent les normes de protocole de communication sans fil. C'est vraiment eux qui sont à la barre de cet élément-là. Alors, vous trouverez de temps en temps sur les boîtes d'appareils, vous ne trouverez pas forcément le logo Wi-Fi, mais vous pouvez de temps en temps trouver la norme IEE, c'est juste le nom technique. Mais ça signifie que vous êtes sur du Wi-Fi. Ensuite, vous posez la question, oui, il existe deux fréquences qui sont utilisées par le Wi-Fi. La 2,4 GHz et la 5 GHz. Elles ont deux usages différents. Et c'est justement les normes qui vont définir les usages et également les portées ou les débits. Alors, le tout premier Wi-Fi, le Wi-Fi A, utilise justement cette fréquence du 5 GHz. Pourquoi cette fréquence de 5 GHz ? Parce qu'en fait, c'était une fréquence aux États-Unis qui était libre. Il n'y avait personne, pas d'armée, rien. Mais par contre, elle a un gros défaut. Ce gros défaut, c'est qu'elle ne couvre pas énormément. C'est-à-dire que si vous êtes en plaine complète, elle a une portée de 50 mètres. C'est simple. Vous avez un mur, un meuble, n'importe quoi, ça bloque. Ça ne dépassera pas la maison, vraiment pas. Moi, j'ai déjà fait des essais en Wi-Fi A, et c'était vraiment très, très limité à une chambre, à éventuellement juste... Voilà, ça marche très bien juste pour les équipements qui sont à côté. Alors, ils se sont dit, bon, on va quand même essayer d'augmenter cette couverture. Et ils se sont intéressés à la fréquence 2.4, et du coup, ils ont créé le Wi-Fi B. Alors là, du coup, comme on est sur une fréquence qui est un peu plus basse par rapport aux autres, du coup, elle a une meilleure portée, et elle va... jusqu'à 300 mètres, mais vraiment en race pleine. Hein. Là, tous les chiffres que vous voyez, c'est il n'y a pas un obstacle et la borne est en haut d'une chaise. Quoi. C'est vraiment, il n'y a rien entre les deux. Il y a des expérimentations qui ont été faites, d'ailleurs, par nos amis de par l'association de Tétat Neutral. En accès direct depuis le joli mont jusqu'au pic du Midi, ils avaient réussi à faire une connexion. Mais c'était vraiment un cas exceptionnel, extrême, mais c'était juste pour le fun, comme je les connais. Sur ce Wi-Fi, par contre, on va jusqu'à 11 mégabits. C'est quand même un peu mieux. On a quand même du débit. Ensuite, ils se sont dit, on va quand même augmenter un peu plus le débit. Donc, du coup, ils ont créé une nouvelle norme qui est la G. La G, par contre, elle va jusqu'à 54 mégabits, mais on a réussi aussi, au passage, à augmenter la portée jusqu'à 500 mètres, en moyenne. Et c'est maximum. Ensuite, on s'est dit, mince. Dès que ça passe un mur, dès que ça traverse un meuble, dès que ça traverse une pièce d'eau, on a encore du mal, on a des difficultés. Et si on récupérait les rebonds ? Parce que finalement, ce ne sont que des ondes. Et ces ondes, elles rebondissent sur les murs. Du coup, une technologie qu'on appelle MIMO, Multiple Input, Multiple Output, a été ajoutée au Wi-Fi. Et c'est ainsi que le Wi-Fi N a été créé. Le Wi-Fi N, qui permet des débits jusqu'à 450 mégabits, mais qui a un énorme avantage, c'est qu'ils utilisent et la 2.4 et la 5 GHz. Du coup, on peut choisir n'importe lequel des deux réseaux. Et pour finir, la dernière évolution du Wi-Fi, c'est le Wi-Fi AC, qui lui utilise le MIMO, mais par contre, c'est concentré uniquement sur le 5 GHz, parce qu'on a trouvé à nouveau un nouvel intérêt pour cette fréquence, c'est qu'on a augmenté la portée, elle va utiliser le MIMO, elle va utiliser le rebond, du coup, on a une meilleure portée, et surtout, on va avoir un meilleur débit, jusqu'à 1,3 gigabits par seconde. C'est de la fibre. Mais, comme l'a expliqué tout à l'heure Xavier, tout le monde peut y accéder. Mais surtout, ça dépend aussi de l'usage. Donc au début, c'était sur les réseaux hotspot ou les réseaux communautaires, le Wi-Fi n'était pas du tout protégé. C'était en clair, c'était ouvert. Je suis sûr qu'ici, le réseau de la médiathèque, il est ouvert. Donc les données, ils sont en clair. Nous, ce qu'on va parler, ça va être la sécurisation de l'autre domaine, c'est-à-dire notre réseau privé. Certains appareils permettent d'avoir un réseau invité, c'est-à-dire c'est un réseau Wi-Fi, mais qu'on va mettre à disposition des invités. Et donc, il y a eu un premier élément de chiffrement qui a été mis en place, qui est le WEP. C'est une clé qui est de 40 caractères en hexadécimal, c'est-à-dire de 0 à 9 et A, B, C, D, E, F. Vous pouvez aussi le transformer en 23 caractères ASCII. Le WEP, c'était Wired Equivalent Privacy. Le problème qu'il y avait, c'était que c'était une norme de chiffrement qui était vieille. Et le problème qu'il y a, c'est que en 2000 et quelques, on s'est rendu compte que on pouvait décrypter facilement cette clé en 3 minutes. Et c'était en 2000. Donc si vous vous souvenez de la loi de Moore, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je pense qu'en quelques secondes, avec nos ordinateurs actuels, on peut le déchiffrer sans aucun problème. Alors du coup, ça a été un peu la panique générale. Et du coup, les gens de la Wi-Fi Alliance ont décidé de créer un nouveau protocole qui s'appelle le WPA. C'était le Wi-Fi Protected Access. Alors, une première version est sortie en 2003 avec une base de chiffrement TKIP. Alors là, je vais laisser les experts pour expliquer. Mais le truc qui s'est rendu compte, c'est que sa résistance était d'une dizaine d'heures. Fallait changer. Du coup, en 2006, on garde toujours le même système, mais on change le chiffrement et on passe sur un chiffrement AES. Et l'avantage qu'il y avait, c'était que c'était une clé de chiffrement avec phrase secrète. C'est-à-dire que vous pouviez mettre n'importe quoi. Le Wi-Fi est mieux. On avait trouvé enfin peut-être la solution en 2006 idéale. Le seul problème, c'est que pendant que je préparais cette présentation, crac. Et oui, le 16 octobre, juste après avoir terminé la présentation générale, ça c'est juste un ajout que j'ai dû faire au dernier moment, des chercheurs de l'université belge ont découvert une série de failles qui justement ont cassé tout le fonctionnement du WPA2. C'est-à-dire que en utilisant certaines fonctionnalités du WPA2, on pouvait accéder au réseau Wi-Fi des gens. Alors, la faille a été découverte en mai 2017, avait été documentée à partir de mai 2017. Mais, pour préparer un peu les mises à jour, les choses comme ça, elle a été mise au secret, comme on le fait souvent dans des failles de sécurité, de telle manière à ce qu'on puisse la corriger. Alors, quel était l'impact de cette faille ? C'était simple. Tous les appareils qui utilisaient le Wi-Fi étaient concernés, que ce soit les ordinateurs, Windows, Mac, Linux, ou que ce soit même les smartphones, même les Android, iOS, Windows Mobile, tout le monde était affecté. Mais également les points d'accès Wi-Fi, c'est-à-dire les routeurs, nos box, Freebox, Livebox, Bbox, même le partage de connexion qu'on peut utiliser sur nos smartphones. Du coup, les constructeurs ont décidé de regarder qu'est-ce qui se passait. Donc du coup, certains ont dit « Ah, c'est bon, on a regardé les failles, on a certains trous qui on les a pas implémentés. » Donc du coup, ils se sont rendus compte que finalement, eux, ils n'étaient pas concernés. Mais d'autres ont commencé à mettre en place des correctifs parce qu'ils se sont vus qu'ils étaient concernés. Alors, Windows, ceux qui sont sous Windows, il existe un patch qui a été déjà proposé dans la mise à jour d'octobre. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'attendre la mise à jour chez Microsoft, elle est déjà disponible. Pour les gens qui sont chez Apple, le correctif est déjà plus ou moins disponible. Dans la prochaine mise à jour que vous recevrez, il y aura le correctif. Pour nos amis Linux, le pactage concerné est déjà disponible avec la mise à jour. Il n'y a aucun souci. Par contre, pour ceux qui sont chez Android, alors, Google a annoncé que le correctif sera dans la mise à jour de novembre. Mais le problème avec Android, c'est que une fois que le patch est mis à disposition par Google, les constructeurs vont l'apprendre, vont la tester et voir si leurs appareils, leur interface et autres est compatible. Et à partir de là, ils vont proposer leur mise à jour. Le problème qu'il y a, c'est qu'on ne sait jamais quand la mise à jour au final sera mise à disposition par les constructeurs. Alors, Crack a mis à mal vraiment WPA2. La dernière version, c'était la plus sécurisée. Pour l'instant, on n'a pas réellement de solution pour le corriger. Et le problème qu'il y a, c'est que ça reste encore la solution de chiffrement pour vos connexions Wi-Fi la plus sécurisée. Ne revenez pas sur Web, ne revenez pas sur WPA. Ce serait une erreur parce que vous diminuez votre sécurité, même si l'autre a une faille. Alors, l'autre élément qui peut aussi protéger les connexions Wi-Fi, c'est au niveau du routeur. Au niveau du routeur, il y a une sécurisation par liste d'adresses MAC. Tout à l'heure, on avait parlé d'IP pour l'identification au niveau du réseau. En fait, il existe une deuxième adresse, qui est l'adresse physique, ou MAC, Media Access Controller, qui lui, en fait, est unique pour chacun de vos connexions, que ce soit l'Ethernet, l'USB ou le Wi-Fi. Et en fait, le truc, c'est qu'au niveau des box, notamment des box de marché, il y a un système de filtre par liste blanche. Et en fait, seuls les appareils qui ont cette adresse MAC peuvent accéder à votre réseau Wi-Fi. Les autres seront automatiquement rejetés. Une autre solution qui est aussi pratique, c'est de ne pas diffuser le nom du réseau Wi-Fi. Ça peut paraître con, mais les points d'accès, que ce soit les box ou les autres, ont tendance à mettre le nom de réseau, diffusent le nom du réseau. Si on ne le voit pas, on ne peut pas s'y connecter. Si on ne connaît pas le nom exact. C'est comme connaître la fréquence de France Inter, comme l'a dit, ou d'autres radios. Si on ne connaît pas la fréquence, on ne saura pas. Oui, il faut qu'il y ait quand même un nom. Mais le truc tout simple à faire, c'est juste décocher, diffuser le nom. C'est tout simple. Seuls les appareils qui connaissent ce nom pourront y accéder. Dans le réseau Wi-Fi, les appareils les plus sensibles, enfin, le cœur de ce réseau, c'est souvent les box des opérateurs. Il se trouve que, de base, les opérateurs appliquent déjà des systèmes, les systèmes de protection que je vous expliquais tout à l'heure. On va parler des plus récents. L'avantage qu'il y a, c'est qu'ils sont tous en WPA2.
c'est beaucoup plus sécurisé que le reste. Même s'ils n'ont pas activé de base le filtrage MAC, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ils ont quand même ce système, il suffit juste de l'activer par un bouton ou par un élément de paramétrage. Il suffit juste de cocher la case et le filtrage commence. Ensuite, il y a d'autres systèmes de protection. C'est justement sécuriser sa transmission, enfin ce que j'appelle les transmissions des données, c'est-à-dire appliquer le HTTPS au niveau des navigateurs, naviguer en sécurisé, ou alors utiliser un réseau VPN, comme va nous l'expliquer tout à l'heure avec systèmes comme Tor. Et ensuite, il reste des solutions physiques. Le câble Ethernet, ça reste une solution pour se connecter sans qu'on utilise du Wi-Fi. Et le courant porté en ligne, où là, on utilise l'électricité. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, je sais, c'est dense, mais le Wi-Fi est quelque chose d'assez compliqué. Et en plus, la faille ne m'a pas aidé. Est-ce que le CPL est assez efficace pour la sécurité ? Alors, c'est simple, je les ai présentés parce qu'en fait, c'est un autre moyen de pouvoir diffuser dans la maison. Dire que c'est sécurisé, c'est pas vrai. Je peux pas vraiment le dire parce que le truc qu'il y a, c'est que au lieu d'utiliser une onde radio, on utilise le courant électrique de notre maison. Il suffit que vous ayez un garage déporté et que quelqu'un branche une prise CPL et fasse une association avec vos équipements dans la maison pour qu'il puisse y accéder. Par rapport au problème de sécurisation du Wi-Fi, c'est plus une alternative qu'autre chose. Alors, j'ai des outils justement qui permettent de détecter. Je détecte bien le réseau Wi-Fi, mais je ne vois pas de nom. C'est uniquement quand on va taper le nom dans on sélectionne et on dit autre, on va vraiment taper le nom que lui va pouvoir se connecter dessus. Si on n'a pas le nom, et en plus avec la casse exacte, c'est-à-dire les grandes majuscules, si on a vraiment le nom exact, c'est le seul moyen pour s'y connecter.
C'était quelques extraits de la crypto-partie du 28 octobre 2017 qui a eu lieu à la médiathèque José Cabanis. D'autres extraits seront diffusés prochainement et vous pouvez retrouver l'intégrale sur notre site cpu.pm. C'était CPU, le programme qui répète utile. Pour cette release, l'équipe était composée de Simon Prévident, Daskritch, Facet Grunt, Simon, Maywan, Solarus, Natouille et Glacasia, ingénieur du son de l'événement Patrick Faubert, organisatrice à la médiathèque Fleur Bouillane. La release a été shippée avec les moyens techniques de la médiathèque José Cabanis, de la bibliothèque municipale de Toulouse et de CPU. Merci à tous nos amis qui nous ont aidés sur cette journée et qui sont parfois intervenus au micro. L'intégralité de l'enregistrement des extraits et ses sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager. La suite de cette crypto-partie et sa fin surtout seront diffusées prochainement. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio Éphémère Analogique, il est presque midi, nous cédons à Monique Blanquet le micro pour son impromptu cultivé.